À chacun son voyage de Carole Détain, suite. Luc était découragé, mais il était également submergé par une puissante vague de colère. « Il est nul le travail de papa, disait-il, hors de lui. » Maude était à ses côtés, devant son ordinateur, qui affichait le mail assassin de Madame Ahmed. « Souviens-toi, maman, j'avais commencé seule au début et ça se passait bien. » Mais lui, il est buté, il comprend rien. Maude n'avait certes pas oublié le premier document envoyé par Luc, pas plus que les commentaires en retour de Madame Ahmed. Luc Valente et Alexandre Dulong avaient-elles précisé à l'époque, je suppose que vous n'avez pas encore commencé votre rentrée. Peut-être faudrait-il songer à vous y mettre. Les échanges étaient devenus plus constructifs dès lors que Luc avait accepté que son père se mette au travail. « J'en ai marre de papa, continuait-il. Quand je vois Madame Ahmed, je lui explique après ce qu'on doit changer dans notre mémoire, mais non, il n'écoute rien, il comprend rien, il fait n'importe quoi. » Luc était d'une évidente mauvaise foi. Thibault avait le mauvais rôle. Il devait interpréter les indications de Madame Ahmed rapportées par son fils. L'hostilité de Luc éclatait, l'immense vague se brisait sur une côte de récifs inhospitaliers. Maude se taisait. Luc était injuste, mais elle l'écoutait, elle comprenait son désespoir. La vague se brisa, puis se retira. Et l'on en arriva enfin à la méthode du magnétophone. Le groupe des trois, Luc, Thibault et Maude, convint que Madame Ahmed serait discrètement enregistrée sur le téléphone portable de Luc. L'on saurait ainsi précisément et sans intermédiaire pourquoi ce mémoire ne pouvait être soutenu. En quoi était-il donc insoutenable? Thibault et Maude découvrirent alors la petite voix fluette, douce, féminine, séductrice même, de Madame Ahmed. Ils furent étonnés. Les modifications demandées étaient mineures. À quel jeu jouait donc cette femme? Chacun, Alex compris, s'était posé la question. Alex et Luc durent attendre un mois avant de pouvoir présenter leur mémoire. Ils étaient inscrits à la session dite de « rattrapage » et ne bénéficieraient pas, en cas d'échec, d'une seconde chance. L'ironie de l'histoire fut qu'ils obtinrent en définitive la meilleure note de la promotion. Une fois leurs résultats connus, ils tentèrent de comprendre l'origine de leur déboire. Ils interrogèrent Madame Ahmed, tout en restant discrets. Ils évitèrent de jouer au contestataire. Mieux valait demeurer prudent eu égard au poste de Madame Ahmed, qui était non seulement leur tutrice de mémoire, mais également la directrice pédagogique du master. Ils se risquèrent cependant, disant qu'ils s'étaient interrogés la veille de la première soutenance. « On était inquiets, précisèrent-ils, d'être les seuls à être exclus. » La réponse fut évasive. « Ce n'était rien. Pas grave du tout. Vous auriez pu, les garçons. » Madame Ahmed, une petite femme, mince et frêle comparée à Alex et Luc, les nommait parfois ainsi quand elle était en forme, détendue, à l'aise, en veine de plaisanterie ou même de copinage, et l'on était en fin d'année. Vous auriez pu en fait passer la première fois, mais alors vous n'auriez eu que la moyenne, pas plus, c'eût été dommage. Les deux garçons ne pipèrent mot. Ils avalèrent leur salive. Ils sourirent poliment, bafouillèrent une réponse approximative, censée exprimer un sentiment proche de la gratitude. « Merci bien, madame, c'était gentil à vous. » Ou bien non. Peut-être n'ont-ils absolument pas prononcé cette dernière phrase, car au fond, qu'en avait-il à faire d'un 13 au lieu d'un 10? Franchement, un 10. La note minimale nécessaire leur suffisait largement, les points d'avance ne pouvant être reportés sur une autre matière. tant d'agitation pour si peu, pensèrent-ils dans un bel ensemble, pour le coup. Oui, on peut le dire, ce fut vraiment dommage. Ils échangèrent un regard perplexe, leur silence demeurait courtois, leur sourire, quant à lui, plutôt contraint. Maud avait assisté, au fil des mois, au spectacle des péripéties liées aux mémoires. La crispation montait, les rebondissements se multipliaient, et le jour fatidique du 10 juin, où Alex et Luc présenteraient leur travail, approchait inexorablement. Après chaque rencontre avec Madame Ahmed, il devait réécrire, il devait faire et refaire, tricoter, détricoter, modifier le plan ou explorer de nouvelles approches. Il devait compléter leurs recherches par la lecture d'autres rapports, mémentos ou thèses, dont certains éléments pouvaient éventuellement croiser leurs préoccupations. Le mystère planait, que se passait-il donc avec ce texte? Maud soupçonna que Luc se laissait porter par trop passivement par son père. Elle supposa qu'il ne faisait pas l'effort d'approfondir suffisamment le sujet. Il n'était sans doute pas capable de justifier chacun des paragraphes constituant le document. Maud interprétait ainsi le terrain marécageux où les deux jeunes gens s'enlisaient peu à peu. Elle connaissait les qualités de Thibault. Son texte ne pouvait être que précis et rigoureux. Tout lecteur normalement constitué aurait dû le percevoir. Madame Ahmed subissait sans doute l'influence d'un préjugé négatif, peut-être en raison des prestations orales peu convaincantes de Luc. Le mois de juin approchait et Maud sentait qu'elle ne pourrait échapper au laborieux pinsomme dont la silhouette se profilait, chaque jour plus inquiétante à l'horizon. Il lui faudrait, c'était inévitable, absolument participer à la rédaction du mémoire. Elle devrait plonger au cœur d'un sujet qu'elle ne connaissait pas. Elle expliquerait ensuite l'ensemble à Luc. Son fils n'était visiblement pas au fait de cet épineux dossier. Elle s'installa alors parmi les peintres, au sein de l'atelier qu'elle avait en partie abandonné ces derniers mois. Le sentiment de vide existentiel qui l'habitait s'était renforcé et l'en avait éloigné. Elle avait en conséquence inauguré l'écriture dans les trains et les autobus. Mais elle était revenue au milieu des tableaux et des aquarelles en raison du mémoire de Luc. En ce lieu seulement, elle parvenait à se concentrer des journées entières sur ces sujets financiers profondément arides à ses yeux. Elle étudiait les notions d'écart d'acquisition, elle analysait les éléments constitutifs des fonds de commerce, elle examinait les sur- et les sous-évaluations des entreprises au moment de leur cession. Elle questionnait longuement Thibault au téléphone sur chaque phrase du mémoire. Peu à peu, le texte lui devenait intelligible. De retour dans l'appartement, elle se tournait vers Luc. Elle lui posait les mêmes questions. Le plus souvent, il ne savait que répondre. Il convint qu'il n'avait pas vraiment pris connaissance du travail de son père. Maud ne lui épargnait rien. Elle l'interrogeait sur chaque ligne du mémoire. Elle insistait sur les enchaînements entre les idées. Elle soulignait la logique qui structurait le document. Et elle réécrivait l'ensemble du texte. Expliciter et développer relevait en effet de ses compétences. Telle était au fond son activité quotidienne, lorsqu'elle écrivait ses livres, où elle l'expliquait, dévoilait et analysait sa propre existence. Éclaircir et justifier ne faisait en revanche pas partie des passions de Thibaut. Il n'hésitait pas à introduire dans ses écrits professionnels notamment de vertigineux raccourcis. Il disposait d'une belle mécanique intellectuelle, mais négligeait souvent de se mettre à la portée du lecteur ou de l'auditeur moyen. Ses travaux écrits dans son travail à Réseau Télécom étaient précis, synthétiques surtout, et souvent même allusifs. Comprenez qui pouvait. Dès lors, bien sûr, que Thibaut se trouvait, cela va sans dire, être soutenu par sa hiérarchie. C'était la règle du jeu entre concurrents professionnels. Cette règle du jeu n'est-elle pas d'ailleurs plus général. Le monde n'est-il pas une dure jungle soumise à cette même concurrence fondamentale? Maud fut pour Luc la traductrice du roman. Thibaut s'était toujours montré indéniablement doué pour aider son fils dans les matières quantitatives. Avec les chiffres, point n'était besoin de discuter. Le résultat était exact ou erroné. On était capable de le calculer ou non. Il suffisait de faire. Les discours pouvaient demeurer relativement modestes. Maud explicita et développa. Elle fit œuvre écrite et orale. Pour Luc, elle se montra pédagogue. Luc se soumit volontiers à l'exercice systématique des questions-réponses de sa mère. Et, relation de cause à effet ou non, l'affaire du mémoire se dénoua alors. Le cap était doublé, les tumultes disparaissaient, le soulagement s'épanouissait enfin. Faire et refaire, avait commenté Thibaut. Défaire et tricoter. Détricoter, retricoter pendant des mois, sans que l'on sache pourquoi. L'efficacité est redoutable pour décourager des jeunes. Un comportement qui frôle, à mon avis, la faute professionnelle. Thibaut avait senti au plus fort du blocage entre Madame Ahmed et les deux jeunes qu'il ne supportait plus de relire ou de modifier le moindre paragraphe du document. L'intervention de Maud fut alors très opportune. L'esprit d'équipe joua son rôle. L'on atteignit alors le dénouement souhaité. Maud avait prévu qu'elle fermerait, avant l'été, les portes et les fenêtres. Elle resterait chez elle et n'irait plus à ses rendez-vous, qu'il s'agisse d'écrire ou bien tout simplement d'entretenir l'amitié. Le mémoire de Luc n'était pas la seule raison en cause. Romain devait lui aussi remettre un document, un rapport de stage, le 20 juin très précisément. Maud avait rapidement compris que la charge au bout du compte lui en reviendrait. Début juin, Julien entamait son dernier mois de stage dans le cabinet comptable de Sylvain Taillandier, le mari d'une amie de Maud. Celle-ci était intervenue pour qu'il soit accueilli dans cette petite structure du sud de Paris. Depuis la rentrée universitaire, Romain savait que sa formation se terminerait par 2 mois de stage en entreprise. Maud avait alors demandé à Sabine, qui écrivait chaque semaine avec elle, si son mari pourrait l'accepter dans son équipe. Luc y avait déjà occupé un poste de stagiaire lorsqu'il préparait son diplôme de comptabilité-gestion. Il avait adoré l'ambiance du cabinet, masculine, blagueuse et amicale. Maud aurait été désolée si Romain n'avait connu de son côté qu'une expérience repoussoire, tristement répandue en entreprise, dans une atmosphère froide et peu chaleureuse, alors qu'il se montrait discret et peu importun sur le chapitre de ses études. Il n'en parlait pas. Il tentait d'être autonome dans les matières qu'il maîtrisait. Il ne désirait sans doute pas gêner ses parents, ou bien il évitait peut-être de suivre la voie de Luc, qui fut étroitement guidé par son père. Romain progressait à petits pas sur un chemin plus solitaire, et Maude avait d'autant plus insisté auprès de Sabine pour qu'il ait la chance, tout comme son frère, d'approcher le monde du travail dans un environnement étonnamment joyeux. Sylvain Taillandier avait accepté. Il était pourtant submergé par une intense activité. Il travaillait dans des bureaux exigus. Il était sociable, ouvert et accommodant. Sa femme trouvait parfois ses qualités trop affirmées. Il ne refusait jamais de rendre un service. La tension quotidienne qui l'accablait, entretenue par sa constante générosité, se transformait à l'occasion en une pénible et épuisante excitation. L'alcool l'aidait alors, pour un temps, à regagner un semblant de calme. Sabine supportait mal cette course infernale. Il accueillit volontiers Romain, qui connut, pendant 2 mois, des conditions idéales. Romain terminait son stage le 20 juin. L'organisation préconisée par l'IUT était simple et efficace. Les étudiants écrivaient leur rapport pendant la durée de leur mission et le rendaient le jour où ils quittaient l'entreprise. Romain prenait chaque matin le métro. Il gagnait le cabinet comptable. Il passait des écritures dans un bureau très encombré, séparé de la rue par une cloison vitrée. Les voisins, commerçants ou non, clients ou non, venaient régulièrement entamer un brin de conversation avec les hommes de chiffres du quartier. Romain accompagnait Sylvain chez les clients. Ils y restaient la journée entière. Les 3 experts comptables du cabinet déjeunaient avec Romain au restaurant. Les repas détendus et bien arrosés constituaient la pause habituelle de la journée. Romain appréciait cette ambiance exceptionnelle. La roue du temps tournait selon un tranquille et inexorable rythme. La date de remise du rapport approchait et Romain n'y travaillait pas. Il n'oubliait pas que son frère avait fait le même stage, dans le même lieu, 2 ans plus tôt. Il ne doutait pas qu'il saurait tirer un excellent parti du rapport de stage présenté alors par Luc. Il était si décontracté qu'il ne se donnait pas la peine de regarder le document. N'est-il pas, en effet, bien connu qu'en matière de travail, moins la barque est chargée, moins le matelot est incité à souquer sur les avirons? Le rapport était en réalité d'ores et déjà rédigé. Maude l'avait écrit en son temps, en lieu et place de Luc. Mais Romain devait encore le lire, le comprendre, le mettre au goût du jour et l'amender à la marge pour respecter les contraintes imposées par l'IUT. Les semaines passaient, la tâche lui pesait, elle lui semblait harassante et ennuyeuse par contraste avec sa vie, somme toute confortable du moment. La besogne demeurait inentamée. Maude le voyait qui adoptait sans problème le parfait comportement de l'adulte ponctuel et sérieux. Il accomplissait sagement ses journées de travail, irréprochable en apparence, peu responsable en réalité. Maude lui rappelait discrètement l'échéance. Elle ne se berçait cependant pas d'illusions et se préparait à rassembler son courage. Elle n'avait plus en tête les subtilités de la consolidation comptable, le sujet traité par Luc 2 ans plus tôt. Il lui faudrait réactualiser ses connaissances, inclure les modifications nécessaires, puis expliquer l'ensemble à Romain. Elle ferait œuvre de pédagogie avec son plus jeune fils, de même qu'avec Luc. Romain aurait lui aussi à répondre à des questions, aussi précisément que s'il avait écrit le document. Maud préparerait également une présentation orale, mais distincte de celle qu'elle avait élaborée pour la soutenance de Luc. Deux professeurs d'anglais interrogeraient Romain sur des considérations financières, alors qu'un jury d'experts comptables avait, à l'époque, posé des questions techniques et pointues à son fils aîné. L'exercice serait tout autre. Il s'agirait cette fois-ci d'expliquer à des personnes extérieures au métier les grands principes de la consolidation d'entreprise. L'approche était bien différente. Maud l'a imaginé, elle a conçu le support de soutenance, elle a transmis l'ensemble à Romain, dont la note fut très satisfaisante. L'affaire fut en l'occurrence efficacement et rondement menée. Ce mois de juin ne fut en rien exceptionnel. Les années précédentes, à l'approche des examens, Maud avait aussi repris le harnais de l'aide universitaire. Elle repérait désormais aisément cette perspective, annonçant des vagues d'inquiétude ou même d'affolement. Elle avait songé bien à l'avance cette fois-ci à interrompre ses activités sociales et amicales. Elle renonça à ses rendez-vous avec Grégoire, un ami d'HEC qu'elle voyait chaque mois dans son bureau à la Défense. Elle fit de même avec Annette, une autre amie d'études qu'elle rencontrait selon le même rythme boulevard Haussmann, près de la banque où elle travaillait. Ses réunions hebdomadaires d'écriture furent annulées. Bien lui en prit d'anticiper ses aménagements de son emploi du temps. L'angine rhinopharyngite sèche, qui épuisa ses réserves d'énergie, fut en revanche la grande surprise du moment. Peut-être avait-elle un peu trop forcé en cours d'année sur son infatigable bicyclette métaphorique, son moyen personnel pour lutter contre le vide existentiel. Guidon en main et regard fixé sur l'horizon, elle parcourt monts et vallées sans s'arrêter, ni même ralentir, sous peine de chuter, sous peine de demeurer à terre. Elle avait présumé de ses forces. Son organisme s'était manifesté, elle avait interrompu sa course. Un traitement antibiotique l'a rétabli peu à peu, ainsi qu'une cure matinale de compléments alimentaires. Maud est assez fière d'avoir découvert depuis quelques années déjà ce complaisant adjuvant. Elle y a recours quand elle se sent trop épuisée. Un petit coup de fouet énergétique s'ensuit, appréciable et apprécié à sa juste valeur. Maud avait annoncé son retrait. La boutique fermait ses portes. Et puis, précisa-t-elle, « la pause estivale suivra. Pendant 6 semaines, j'irai à Kerbillan. Et mes amis, retrouvons-nous début septembre. Nous reprendrons de plus belle. Nous repartirons d'un très bon pied. » Les réponses, spontanées et bienveillantes, ne furent pas surprenantes. Maud s'est dégagée de l'univers professionnel. Elle a cette chance. Autour d'elle, planent et virevoltent tolérance et souplesse. Elle a conscience d'avoir la vie facile.